sur les assises de l'éco-production qui ont eu lieu en décembre, il y en a qui ont dit qu'il fallait faire moins de films mais mieux. Et bah paradoxalement, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il faut faire autant de films qu'avant, mais les faire de manière bien plus raisonnée.
Je m'appelle Samia et dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses de la transition écologique. Vous vous dites peut-être qu'on ne peut plus rien faire pour l'environnement, que la situation est désespérée. Dans Oh My Planet, je vous prouve le contraire. Tous les 15 jours, je rencontre des personnes qui se bougent pour le climat, chacune dans son domaine, avec ses armes.
Dans quelques instants, nous arriverons en gare de Lyon, pardieu.
Oh My Planet, un podcast proposé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Épisode 2, le cinéma sur fond vert.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, on a rendez-vous pour un tournage.
On est au mois de février, un lundi matin. J'ai rendez-vous dans les locaux de France 3, à Lyon.
Ok, je vous offre.
Merci.
Vous avez mis 3 en plus.
Ah, c'est vous. Je l'ai justement décroché. Bonjour.
Vous êtes arrivé en avance.
Ah oui, en fait, on est arrivé. C'était vraiment juste à côté de la gare.
Je retrouve Mathieu Thiel. Barbu, grand sourire. Il est éco-référent sur le film Le Sanctuaire, coproduit par France Télévisions. Son boulot, c'est d'évaluer et de réduire, autant que possible, l'impact carbone d'un film. On n'y pense pas forcément, mais l'audiovisuel, ça pollue beaucoup. En France, un film émet en moyenne 750 tonnes de CO2. C'est à peu près 430 allers-retours entre Paris et New York en avion. Est-ce qu'on peut faire un film moins polluant? Et est-ce que ça change quelque chose pour nous, les spectateurs?
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans un secteur qui est en pleine mutation, c'est les loges.
Avec plaisir, allons-y. Avec...
Parce qu'en gros, les car-loges, c'est souvent des très gros poids lourds. Ça permet de préparer les comédiens sans avoir besoin d'installer des loges annexes, parce que quoi qu'il arrive, ils ont besoin d'être maquillés, ils ont besoin d'être habillés. Après, il y a les loges de pur confort.
Ça veut dire quoi, des loges de pur confort ?
Ça veut dire qu'il y a des loges dans lesquelles les comédiens peuvent se reposer, travailler leur rôle. Mais ce qu'ils oublient, c'est que ces loges-là sont souvent donc des véhicules de entre 11 et 16 tonnes, avec la consommation de gasoil qui va avec. Ici, on a Nicolas Gope, qui est un acteur très reconnu, plutôt connu, mais qui n'a pas émis la demande d'avoir une loge personnelle. Et c'est tout à son honneur. Bravo à lui.
Voilà, Samia, Nicolas.
Bonjour.
Nicolas,
Samia. Est-ce que vous, l'écologie, c'est une question que vous aviez en tête quand vous avez commencé le métier d'acteur, ou en tout cas que vous avez depuis quelques années, ou c'est très très récent?
En fait, on n'a pas été nourri à ça, nous, il y a encore 15 ans. Ça commençait tout doucement, on en parlait de plus en plus, mais c'était quelque chose presque de lointain. On se dit, oui, ça allait advenir dans quelques années, que ça allait devenir problématique et tout. Mais là, on est vraiment au cœur du sujet, et moi, ça m'intéresse, enfin, au-delà de m'intéresser, ça m'impacte énormément, et surtout par rapport à mes enfants.
Très, très fort.
Qu'est-ce qui pollue le plus aujourd'hui dans le cinéma ou dans la télé?
Objectivement, les stars. Les stars. Les stars, c'est elles qui polluent le plus, c'est elles qui font plusieurs continents pour aller d'un plateau à un autre, c'est elles qui ont des jets privés, c'est elles qui ont des hélicoptères, c'est elles qui ont des vêtements qui changent toutes les 3 heures.
Dans un monde écolo, il n'y aurait pas de stars?
Alors, je crois qu'on ne peut pas faire de cinéma sans figure reconnue et connue. On ne peut pas faire de métier médiatique sans qu'il y ait des gens nécessairement très, on va dire, populaires. En revanche, je crois qu'on peut les mettre dans des postures qui sont peut-être plus progressistes. Donc là, c'est un peu l'endroit, entre guillemets, convivialité du décor. C'est la table régie, la fameuse table régie qu'il y a à peu près partout.
Sur cette table, il y a du café, du thé, des bocaux en verre avec des gâteaux. Pendant que Mathieu me parle, on croise Lucie, l'actrice qui incarne l'ado dans le film. Elle a 16 ans.
J'ai voulu faire actrice parce que, en fait, ce que je trouve déjà génial dans ce métier, c'est que dans une vie que tu as, tu en incarnes des dizaines et des dizaines et des dizaines.
Est-ce que tu étais étonnée de voir Mathieu sur le tournage et de découvrir ce métier d'éco-référent?
Alors, j'étais pas étonnée, mais je connaissais pas ce métier. J'avais jamais vu ça sur un tournage, ou alors on m'avait pas présenté la personne comme ça. Mais ça m'a pas étonnée parce que, bah, déjà, c'est un tournage sur ce sujet. Et puis, le monde est de plus en plus en train de changer positivement pour l'écologie. Donc, il y a de plus en plus de métiers comme ça qui se rajoutent un peu partout.
Toi, par exemple, est-ce que tu es souvent en contact avec Mathieu, justement?
Ah bah oui, tout le temps. Tout le temps, moi je fais attention et puis ils me surveillent.
Alors, moi je suis régisseur audiovisuel depuis 2006 maintenant. Comme c'est beaucoup de logistique, il y a forcément des questions qu'on se pose. Il y a quelque chose qui me travaillait.
En tant que régisseur, ce qui plaisait à Mathieu, c'était de travailler dans tous les corps de métier. Il était motivé, à l'aise, sympa. Des qualités indispensables pour devenir éco-référent.
Bah, je suis le directeur de production, mais pour la partie France Télévisions.
C'est Alain qui lui a suggéré de s'orienter vers ce nouveau métier.
C'est mon bienfaiteur. Hein.
Ah ouais.
C'est lui qui m'a dit de faire ses études. C'est lui qui m'a mis sur le premier film à Lyon.
Et pourquoi justement vous avez encouragé Mathieu à faire ce travail ?
C'était la période, en 2021 ou 2022, où j'entendais que ça commençait à frémir au niveau du développement durable et de l'éco-management. Et très vite, bon, une fois qu'il a eu sa formation, le couperet est tombé, c'est que bon, voilà, il fallait mettre un éco-manager sur les tournages.
Il y a un élément qui est clé dans notre métier, c'est le bilan carbone. Depuis avril dernier, avril 2023, il était incité de faire donc un bilan carbone prévisionnel qui consiste à essayer d'estimer les émissions carbone du tournage avant son commencement, en tout cas du processus de création du film, et ensuite l'établissement d'un bilan carbone définitif.
Donc ça, c'est une fois que le scénario est écrit, qu'on décide de faire le projet, c'est avant de démarrer le tournage, c'est ça ?
Donc le prévisionnel, c'est ça, c'est avant de faire le en fait, c'est pendant la mise en production. Et le définitif, c'est à la fin en fait, au moment où le film doit sortir, normalement.
Le CNC, le Centre National du Cinéma, réclame ses bilans pour verser des aides financières aux boîtes de production. Un jour, il pourrait imposer un plafond d'émissions de CO2. Mathieu note toutes les émissions de gaz à effet de serre liées à la production du film. Les déplacements, les groupes électrogènes pour éclairer les studios, les repas servis sur les tournages. Il veut évaluer au plus juste pour aider le CNC à déterminer, plus tard, des plafonds. Dit comme ça, ça a l'air facile, mais tout le monde n'est pas réceptif.
Je demande quel a été votre trajet, avec quel type de véhicule qui fonctionne à quel carburant, et ils ont l'impression que je suis en train de leur demander leur numéro de carte bancaire et que je vais leur interdire de sortir le samedi et de manger une côte de bœuf le dimanche. Alors que c'est pas du tout ça, ce métier, mais pour autant, il y en a qui le perçoivent comme tel.
On arrive au niveau du café, où aura lieu le tournage. C'est un café plutôt ancien, un endroit avec du cachet, comme on dit. Par la fenêtre de la voiture, je vois d'autres camionnettes, des mallettes posées sur le trottoir et les éclairagistes qui installent les projecteurs.
Donc, nous arrivons sur notre nouveau décor, qui donc est aussi un double décor, parce qu'il va y avoir une réunion secrète de militants écologistes au sous-sol et un café à l'étage. Donc ça permet de faire quand même deux décors qui n'ont absolument rien à voir ni les uns avec les autres. Et ça, pareil, ça rentre dans une logique qui est un peu bête à dire, mais très maligne, c'est qu'on mutualise, donc on limite les déplacements et qu'on favorise d'une certaine manière l'écologie. Par exemple, moi j'ai toujours le salaire de la peur en exemple, le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, qui est censé se passer en Amérique latine et qui se tourne entièrement en Camargue. Et dans le sud de la France. Et concrètement, personne n'y a vu que du feu. Et on a plein de décors qui pourraient faire style qu'on est ailleurs. Donc on peut en soi faire des petites entourloupes et dire ça se passe dans plein de pays différents.
Hop. Allez.
Merci.
Il y a beaucoup de monde sur le plateau. C'est impressionnant. Peut-être 20, 25 personnes s'activent autour du décor. Tout le monde se positionne. Les caméramens, les ingé-sons. Mathieu prend son talkie-walkie. Mathieu relaye les ordres du réalisateur à l'équipe technique dans l'arrière-salle. Puis le réalisateur crie « Coupé !»
Très bien, merci.
Et c'est coupé.
On
Le Sanctuaire sort à la rentrée, et il parle justement d'écologie. France Télévisions est un des membres fondateurs du collectif EcoProd, et il s'engage à réduire son impact environnemental, entre autres grâce à des référents comme Mathieu, quel que soit le sujet du film.
Alors, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu justement de quoi parle le film ?
Alors, le film, c'est donc une ado qui se prend d'affection pour un veau. De cette affection naît une sorte de conscience écologique. Cette jeune femme, elle rencontre un réseau militant et elle se radicalise un petit peu. Ça questionne aussi la place de la viande dans la société, ça questionne aussi la place de l'élevage dans la société. Et je crois qu'il ne faut pas être à charge ni contre un camp ni contre l'autre du tout. Et ce film, pour le coup, tombe pas dans l'écueil. Parce qu'il y a beaucoup de films moralisateurs et là, on n'est pas dans un truc moralisateur.
Mais produire un film écolo, ça commence dès la phase d'écriture. Sauf que c'est pas évident.
Je vais prendre l'exemple le plus radical, mais si on fait Fast and Furious, qui se passe à chaque fois dans plein de pays avec des véhicules motorisés de gros calibre, qu'ils soient avions, hélicoptères, ils vont passer en navette spatiale s'ils pouvaient, machin. Tout ça, si on commence à faire une lecture environnementale et d'y imposer un respect de budget carbone, de toute évidence, ça va vite se transformer en Louis la brocante. Si on a un tant soit peu de réflexion à mener autour de ces projets, c'est plutôt comment les écrire pour qu'on n'arrive pas à ça. Ça veut dire qu'il faudrait, dès l'élaboration du projet, commencer à avoir une petite voix qui dit « Ah, peut-être ça mériterait d'être réfléchi. »
Comme c'est un nouveau métier, Mathieu est encore en train de définir son travail et la manière de le faire.
Et donc, l'année dernière, il y a un an jour pour jour, j'ai été le premier à Lyon à faire ce poste. Et on commençait, on ne savait pas trop comment en faire. C'est un projet assez récent, finalement, ce poste. Et du coup, ça, c'est quand même évolué par rapport à l'année dernière.
Mathieu n'a pas toujours été monsieur écolo, loin de là.
J'ai fait des tournages qui étaient à la limite de l'écocide. J'ai fait un tournage qui m'a profondément marqué parce qu'on était dans une forêt classée. On avait 5 humeurs à fond les ballons qui roulaient à travers les arbres avec des projecteurs tungstène 18 kg de partout qui éclairaient la forêt comme si on était en plein jour. Donc ça a été un carnage et pour la faune et pour la flore.
Il faut des tournages qui polluent moins, ok, mais aussi moins de déchets sur les plateaux.
Maintenant, on commence à avoir des bases, on commence à savoir où on va, mais les gens ont tendance à oublier que les déchets les mieux, c'est ceux qu'on ne fait pas.
Tout à fait, il vaut mieux pas faire de déchets du tout.
Après, on ne va pas se mentir, comme le recyclage est facilité, par exemple, il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus simples qu'avant. On essaye de faire en sorte que tout soit toujours le moins jetable possible. Il faut identifier tous les trucs en vrac, il faut identifier tous les magasins qui vendent les choses écologiques, il faut identifier toutes les bonnes habitudes qu'on peut développer.
Mathieu disait tout à l'heure que le film n'était pas moralisateur. Lui non plus. Un éco-référent n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Il sensibilise ses collègues, sans être lourd.
Il y en a certains qui sont plus récalcitrants que d'autres. L'enjeu, quand on fait ce métier-là, qui est donc une sorte de métier nouveau où on essaie d'intégrer de l'écologie sans interférer sur le fonctionnement habituel, l'enjeu est, selon moi, de ne s'attirer jamais les foutres de personne. Quand quelqu'un ne trie pas, je retrie derrière. Et la personne qui ne l'a pas fait n'a pas la frustration de se voir donner une leçon par quelqu'un qui dit « Ah, faudrait plutôt faire ça ». Je le fais évidemment un peu. Moi, j'ai tendance à le faire avec le ton humoristique, tant qu'à faire.
Par exemple, là, si moi je jette dans la mauvaise poubelle un carton, qu'est-ce que vous me dites ?
Je dis « Ah, tu t'es trompé de poubelle, je vais le faire moi-même ». Donc j'échange et à la fin, je fais toujours un truc genre « passion poubelle ». De telle sorte à ce que ça permette d'être fait dans la bonne humeur.
Ça détend l'atmosphère.
Mathieu n'est pas un donneur de leçons. Il est confronté à des personnes différentes, des sensibilités différentes. Et il apprend à composer avec tout le monde.
Moi, j'ai toujours été d'une nature assez fantasque et excessive. Donc ça veut dire qu'il faut que je me nuance et me mesure. Ce métier m'a appris à le faire d'ailleurs, d'une certaine manière. J'essaye de nuancer et de mesurer beaucoup ce que je fais, puisque en face, il y a des gens qui sont contre ou il y a des gens qui n'ont pas envie d'être pour, en tout cas. Et du coup, j'essaye, grâce à ça, d'être en mesure de pouvoir répondre et de pouvoir comprendre la personne en face de moi plutôt que de la juger, d'essayer de la mener vers une discussion où on peut réfléchir. Je ne dis pas que je vais lui faire changer d'avis, ça c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, les gens ont des avis très ancrés. Mais du coup, ce métier m'a aussi permis à jouer sur les avis de chacun et à quand même subrepticement glisser des petites idées selon lesquelles, en fait, l'effort, il peut être fait par tous et pas que par les autres.
Vous semez des petites graines, en fait.
Je sème des toutes petites graines.
Un film écolo, c'est pas forcément un film qui parle d'environnement ou qui donne des leçons. Heureusement, parce que ça donnerait pas envie d'aller au cinéma ou d'allumer la télé. Mais si on veut continuer à faire des films, si on veut continuer à s'émerveiller, pleurer ou juste se distraire devant un écran, il y a des choses qui doivent changer en coulisses. Moi, je vais au cinéma toutes les semaines. Maintenant, quand je regarde un film, je me demande, est-ce qu'on a dorloté les acteurs avec des loges individuelles qu'ils n'ont presque pas utilisées ? Est-ce qu'on a déplacé un cortège de véhicules pour chaque tournage ? Et aussi, qu'est-ce que raconte le film ? Sans aller jusqu'à un discours écolo un peu chiant, est-ce que c'est un film moderne, de son temps, qui prend en compte l'environnement ? Dans tous les cas, ça ne changera pas la mission du cinéma et de la télé, raconter des histoires.